les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Un Cajun de Louisiane. La Louisiane et la Nouvelle-Orléans passionnent les foules, enfin, surtout les amateurs de jazz. Mais des liens indéfectibles nous lient, les Louisianais et nous. Ils sont très profonds, ces liens. Il y a la langue que nous partageons. Le consul général de France à la Nouvelle-Orléans résume ce fait très bien. Beaucoup de jeunes Louisianais reviennent vers leurs racines. Ils veulent vivre la francophonie et la France elle-même veut être très présente. Laure Mandeville, envoyée spéciale à Lafayette, en Louisiane, pour le Figaro, nous conte la miraculeuse survie des francophones de Louisiane. Il s'appelle Kirby Jambon, un nom qui ne s'invente pas et révèle à la fois ses racines françaises et son appartenance américaine. Gigantesque et débonnaire, le professeur Jambon attend patiemment ses élèves dans la cour de l'école La Prairie à Lafayette. En ce jour chaud et doux, maîtres et élèves portent tous des maillots de football américains des Saints, l'équipe de Louisiane qui doit affronter les Lions de Détroit dans la soirée. Mais cela ne les empêche pas de deviser gaiement dans la langue de Molière. « On arrête de s'agiter », dit Kirby Jambon dans un français au R qui roule et aux terminaisons qui traînent et chantent. « Oui, monsieur », répondent les enfants qui parlent dans un français courant. Nous sommes dans le sud de la Louisiane, petit morceau de francophonie qui continue de palpiter et de vivre sa vie avec une singulière obstination dans l'océan culturel anglophone des États-Unis d'Amérique. Quelques 45% des élèves ont leur cours en français, des maths au sport, en passant bien sûr par la littérature. Ici, on est fiers de parler français, est-il écrit sur un papier collé au mur dans la classe de Jambon. Cela fait 25 ans qu'il enseigne dans cette école élémentaire qui va jusqu'à la 5e. Kirby est professeur à la ville et poète à la maison. La langue française que parlaient son grand-père et ses parents est devenue son univers, sa patrie, comme il dit, depuis qu'il l'a redécouverte après l'avoir rejetée enfant et adolescent, parce que le français cadien passait pour la langue des ploucs dans un monde anglo-saxon. Un jour, il y a quelques années, il s'est même mis à écrire en vers, après avoir lu des poèmes d'un ami écrivain francophone de Louisiane, David Cherumi. Il n'imaginait pas ce qui allait suivre. En décembre, Kirby a été invité à Paris pour recevoir le prix Henri de Régnier de poésie de l'Académie française. C'était la première fois qu'un Louisianais francophone était distingué. Nous avons été séduits par la langue vigoureuse et sensible de Kirby, par sa chaleur, a confié au Figaro Marc Fumaroli, qui faisait partie du jury. « Je me suis mise à écrire très tard », raconte Kirby. Voir notre français de Louisiane validé de cette manière, c'est beau. Pour moi, c'est une manière de rendre hommage à mon grand-père, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui parlait un français magnifique, plein de mots anciens qui sont en train de disparaître. Chez nous, les crevettes s'appellent « chevrettes », la voiture est un char, et l'accélérateur, la va-vite, dit le poète. Pour comprendre la merveilleuse anomalie francophone de Louisiane, il faut remonter notamment au XVIIIe siècle, quand en 1764, des populations venues d'Acadie, en Nouvelle-Écosse, abordent par bateau sur les côtes sud de la colonie française de Louisiane après leur expulsion forcée du Canada. Ils sont des milliers, essentiellement paysans, pêcheurs et chasseurs, à s'installer dans les bayous, où ils vont constituer l'un des terreaux de la francophonie louisianaise. Une tragédie qui restera connue sous le nom de Grand Dérangement. Une autre immigration importante venue de France, mais aussi des ex-colonies francophones des Caraïbes, comme Haïti, va ajouter de nouvelles strates à ce melting pot au cours des siècles. Tandis que les Cadiens peuplent les campagnes, dans les villes, les Français se mélangent avec les Noirs francophones et les Hispaniques, créant la culture créole, si riche de la Nouvelle-Orléans. En 1803, hélas, Napoléon finit par vendre la Louisiane aux États-Unis pour une bouchée de pain. Mais les francophones vont y rester. Jusqu'en 1916, le français résiste incroyablement bien. Porté par une identité forte, les villages cadiens ou cajuns défendant leur langue, bec et ongles, leur cuisine et leur musique. À la Nouvelle-Orléans, nombre de journaux restent francophones, même si l'arrivée d'élites anglo-saxonnes contribue à un déclassement brutal. Les choses se gâtent avec l'interdiction du français dans les écoles et l'anglicisation forcée au nom de l'intégration. Moqués, les enfants de Cadiens et de Créoles n'ont même pas le droit de parler le français dans la cour de récréation. Toute une génération de sacrifiés, celle des parents de Kirby Jambon par exemple. Toute cette génération a des histoires tristes à raconter sur ces élèves privés de toilettes parce qu'ils ne savaient pas demander en anglais. C'était très dur. On mettait les enfants pieds nus au piquet sur des grains de riz parce qu'ils parlaient français, explique Brenda, une poétesse francophone de Lafayette d'origine créole. Le tabou va commencer à sauter quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines utilisent des Cadiens comme éclaireurs pour débarquer en terre française occupée par les nazis. Soudain, ils apparaissent utiles et non ridicules, mais le souvenir de l'anglicisation forcée des années 20 perdure dans les esprits et les parents n'insistent plus pour que leurs enfants apprennent le français de peur de les marginaliser. C'était le cas avec mes parents. Ils ne voulaient pas nous porter tort, dit Kirby, qui refusait aussi de parler français parce qu'il avait honte. Une rupture de transmission se produit. Mais un réveil identitaire francophone va se faire jour dans les années 1960. À travers la musique, cadienne, mélange très particulier de jazz, de musique africaine et celtique, qui rime avec des textes en français et raconte toujours avec gaieté des histoires de tragédies surmontées. En 1968, réalisant l'intérêt touristique que présente la francophonie, les autorités de Louisiane, poussées par un groupe d'intellectuels basés à Lafayette, créent le CODOFIL, ou Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui déclare l'État officiellement Bilingue, un mouvement francophone louisianais porté par quelques personnalités comme Barry Ansley va naître et la France s'engouffrait dans la brèche pour encourager l'enseignement du français, détachant des dizaines de professeurs de l'éducation nationale dans les lycées locaux. Aujourd'hui, 150. Des écoles d'immersion apparaissent. Quelques 4500 enfants sont aujourd'hui scolarisés en français dans ces établissements. Environ 160 000 personnes parleraient aujourd'hui français en Louisiane. Le documentariste Robin Mark a passé des mois à se promener dans le pays cadien et créole, où la vieille génération en passe de mourir, conserve ses traditions et ses savoureux patois locaux. Caméra au point, il a fixé leur chasse dans les bayous, plongé dans le brouillard à l'aube, ou leurs festins improvisés, cuisinés dans de grandes bassines de fer remplies de gombo aux crevettes ou aux saucisses, dans un film documentaire intitulé « La Louisiane par exemple ». Ce qui m'a le plus fasciné, c'est que ce monde ait résisté si longtemps à la culture du McDo et à l'anglais, mais il est indéniable que quelque chose va mourir avec les anciens, constate-t-il. En même temps, Robin a senti, comme tant d'autres visiteurs, le frémissement culturel francophone qui semble saisir la Louisiane depuis quelques années au hasard des festivals et des fêtes qu'il a filmées. « Il se passe quelque chose », confirme le consul général de France à la Nouvelle-Orléans, Grégor Trumel. Frappé par l'authenticité du Festival de la culture cadienne, qui a réuni 2000 personnes en octobre, beaucoup de jeunes Louisianais reviennent vers leurs racines. Ils veulent faire vivre la francophonie et la France elle-même veut être très présente, dit-il, notant aussi une tentative des autorités de l'État de profiter de l'atout politique et économique que représente cette identité au niveau international. La Louisiane se positionnerait notamment pour former des interprètes francophones pour l'armée américaine, aujourd'hui très impliquée en Afrique francophone dans la lutte antiterroriste.
Thank you.
Rachel Decuire, une jeune femme de Lafayette, fait partie de la génération montante qui s'efforce de recréer des espaces de vie francophones dans l'océan anglais. Avec une quinzaine d'amis enthousiastes, elle a appris le français dans une école d'immersion et le parle couramment. Elle a donc créé une happy hour française qui se tient tous les samedis matins au bar Blue Moon. L'idée est de développer une pratique courante, non institutionnelle du français pour le faire vivre. D'autres lieux de vie francophones se créent, comme le centre Nounou à Arnauville, une ancienne grange réaménagée où un groupe de francophiles organise chaque semaine des clubs de conversation et des happenings culturels. Le jeudi soir au Blue Moon de Lafayette, l'ambiance est aussi très française. Des musiciens cadiens du coin s'installent sur scène et se mettent à chanter en français, tandis que les gens dansent ou discutent jusqu'au matin. Certains ont les tempes grises, d'autres à peine 20 ans. Ici, la vie est fantastique. Les Cadiens savent faire la fête et ils ont une vérité, une authenticité que je n'ai pas trouvée ailleurs, raconte petit François, un Savoyard qui est tombé amoureux de l'endroit et a acheté une maison dans le vieux village de Pont-Bro. Kirby Jambon se dit optimiste devant cette mobilisation des jeunes. « Aujourd'hui, je suis l'un des plus vieux. » Cela montre qu'il y a une relève, explique-t-il, même s'il reconnaît que la francophonie n'est plus un acquis en Louisiane, mais un choix difficile. « Parfois, je n'ai personne à qui parler en français, hormis mon chien, rigole le poète, marié à une Américaine anglophone. Cette culture survivra-t-elle quand les vieux ne seront plus là ? Me poser une question pareille, c'est comme si vous me demandiez quand je vais mourir. Mais je n'en sais rien, s'écrie Kirby. » Gardez espoir, c'est une spécialité cadienne, conclut-il. Tout simplement parce que nous avons survécu. Francophonie, ousque que t'es parti?
Ousque que t'es parti, ouais, mon bon vieux mari. Que t'es parti, j'en appelle l'amour. Mais jusque t'es parti, oui, mon bon vieux mari. Mais le meilleur buveur du pays. Oh, j'ai patine sous l'air. Et quand tu vas ramener, oui, mon bon vieux mari. Mais quand tu vas ramener, j'en appelle l'amour. Mais quand tu vas ramener, oui, mon bon vieux mari. Mais le meilleur buveur du pays. Oh, demain ou un autre jour, peut-être. Qui t'y veux secouer, oui, mon bon vieux mari. Mais qui t'y veux secouer, j'en appelle l'amour. Mais qui t'y veux secouer, oui, mon bon vieux mari. Mais le meilleur buveur du pays. En deux douzaines de hommes et un gallon de Costco. Ça va te tuer, j'en appelle l'amour. Et ça va te tuer, oui, mon bon vieux mari. Mais le meilleur buveur du pays. Oh, mais si ça, je peux mourir quand même. Et où tu veux te taire, oui, mon bon vieux mari. Et où tu veux te taire, j'en appelle l'amour. Et où tu veux te taire, oui, mon bon vieux mari. Mais le meilleur buveur du pays. En arrière de l'échelonnée. Et de temps en temps, passe-moi un gros peigne de bière.
Faut-il regretter la Louisiane ? Le premier consul Napoléon Bonaparte s'était désintéressé de l'Amérique du Nord à la suite de la guerre en Haïti. Et il voyait dans la cession d'un territoire de 2 millions de kilomètres carrés, soit près de 4 fois la France, un bon moyen de redresser des finances publiques largement entamées par ses ambitions guerrières en Europe. moyennant 15 millions de dollars, environ 185 millions d'euros aujourd'hui. L'opération avait permis à l'époque aux Américains de doubler la superficie de leur pays. L'affaire avait été conclue à Paris le 9 mai 1803, mais les informations ne circulant alors qu'à la vitesse des bateaux traversant l'Atlantique, ce n'est que le 20 décembre 1803 que la vente fut actée. Et si Napoléon avait vendu la Corse ? Les Cajuns, nos cousins de Louisiane, nous ont accompagnés avec leurs chansons traditionnelles ancestrales, enregistrées sous la marque Mardi Gras Records, dans les studios de la Nouvelle-Orléans, 3331 St. Charles Avenue. Et là, on danse dans le bayou avec les crin-crins. France Guimard-Roche, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé par Roland Richard dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.